Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
Lutte contre Ebola, le chef de l'État instruit le gouvernement de mettre immédiatement en œuvre les mesures nécessaires pour renforcer la riposte. Félix Tshisekedi a formulé ses recommandations lors d'une réunion de crise lundi à Kinshasa. Les opposants congolais unis au sein d'une coalition baptisée C64, c'est pour dire non à toute révision constitutionnelle et à toute perspective dans le troisième mandat du président Tshisekedi. Le lancement est lieu hier à Kinshasa, on y trouve notamment les idées en vol ou encore ensemble. Comme invité, Bruno Le Marquis, chef adjoint de la MONUSCO et coordonnateur résident, arrivé fin mission en RDC. Comme bilan, il dit avoir donné sa contribution pour aider à certaines réformes pour le développement du pays. Bruno Le Marquis dit croire à un bel avenir pour la RDC une fois débarrassé de tout ce qui la bloque. Bonjour. Fièvre hémorragique Ebola dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Félix Tshisekedi fait entendre savoir. Le chef de l'État instruit le gouvernement de mettre immédiatement en œuvre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la riposte contre la maladie à virus Ebola en sa qualité de garant de la nation. Le président de la République a formulé ses recommandations lors de la réunion de crise tenue lundi à la cité de l'Union africaine ici à Kinshasa. Que retenir d'autre, Blaise Ndongala?
Au cours de cette rencontre, le président de la République a appelé les experts et spécialistes en santé publique à redoubler d'efforts afin de contenir la propagation de la maladie à virus Ebola dans la partie est du pays. Il a insisté sur la nécessité d'assurer une prise en charge rapide et efficace des populations affectées. À cette occasion, Félix Tshisekedi a également invité la population au calme, à la vigilance et au strict respect des mesures de prévention recommandées par les autorités sanitaires. Pendant ce temps, l'épidémie continue de progresser dans certaines zones de santé des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri où plusieurs cas suspects font actuellement objet d'investigations approfondies afin d'établir leurs liens éventuels avec la maladie. Lors d'un briefing de presse organisé le même lundi, le ministre de la Santé publique a précisé que près de 513 cas suspects et 131 décès ont été enregistrés dans les zones affectées. Il a toutefois indiqué que tous ces décès ne sont pas nécessairement imputables à la maladie à virus Ebola. Selon lui, il s'agit des cas suspects et des analyses sont en cours pour déterminer lesquelles sont effectivement liées à cette épidémie.
Et en 5 jours après la déclaration du virus Ebola par le gouvernement congolais, les chiffres passent de 118 à 136 décès. 69 malades sont pris en charge dans les centres de traitement et plus de 543 malades suspects dans la société. Ces chiffres ont été donnés par le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, hier mardi à Kinshasa lors d'un briefing de presse coanimé avec son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya, ainsi que le Dr Jean-Jacques Moyembe, directeur général de l'INRB, l'Institut national de recherche biomédicale. Vous suivrez plus de détails dans les heures qui suivent. L'actualité de ce jour est aussi politique. Des opposants congolais désormais regroupés au sein d'une coalition, une est baptisée C64. Cette plateforme, coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, rassemble les principales forces politiques de l'opposition. Elle a été lancée hier mardi à Kinshasa. Cette nouvelle coalition regroupe notamment les idées de Martin Fayoulou, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, LGD de Matata Ponyo, En vol de Délice Sanga, ainsi que Alliance pour le changement de Jean-Marc Kaboun, de côté d'autres mouvements politiques et citoyens. À travers cette initiative, l'opposition rejette toute révision constitutionnelle ainsi que toute perspective dans le troisième mandat du président Félix Tshisekedi. Elle appelle la population à la mobilisation, à la résistance. Les membres de la coalition C64 exigent également le retrait de la proposition de loi référendaire actuellement examinée au Parlement. C'est Nicolas Lenga, cadre de Envol, qui a lu la déclaration commune. Il est au micro de Grace Amsati.
Nous n'accepterons plus de revivre les heures sombres de la dictature avec des mandats illimités. Ainsi, nous signifions à Monsieur Félix Tshisekedi que le peuple congolais a définitivement dit non à la dictature. Monsieur Félix Tshisekedi est à son second et dernier mandat. Aucune circonstance, fût-elle sécuritaire, sanitaire, ou diplomatique ne servirait de prétexte au glissement du mandat présidentiel. Peuple congolais, aujourd'hui plus que jamais, faisons le choix de la liberté contre l'esclavage, le choix de la démocratie contre la dictature, le choix de notre dignité contre l'humiliation. À compter de ce jour, 19 mai 2026, il reste 852 jours avant la convocation constitutionnelle de l'élection présidentielle de 2028.
Autre nouvelle, Bruno Lemarquis, qui a été le chef adjoint de la MONUSCO et coordonnateur résident, a fini cette mission qu'il a exercée en République démocratique du Congo depuis 2022. Il devrait prendre ses mêmes fonctions dans un autre pays dans les jours à venir. Évoquant le bilan de son mandat au Congo-Kinshasa, il dit avoir donné sa contribution pour aider à certaines réformes en vue de développer le pays. Ce n'est pas tout, il invite la République démocratique du Congo à vaincre les petits détails dans plusieurs secteurs qui bloquent son décollage. Bruno Lemarquis le dit au micro de Dona Madimba.
Il faut appuyer les acteurs locaux pour la paix, il faut consolider les plateformes locales de médiation, etc., etc. Et puis pour les grands processus, les plus grands processus politiques, il faut vraiment travailler de concert entre tous les partenaires concernés. Donc ça, on le voit avec les processus de Washington, de Doha et l'implication de l'Union africaine. Il y a beaucoup de petites choses internes qui peuvent être sur lesquelles il faut travailler pour petit à petit commencer à résoudre le paradoxe congolais, parce que je suis persuadé que le Congo est un géant qui dort, qui est en train de se réveiller. On le voit, il y a eu cette annonce il y a quelques jours que la RDC pour l'Afrique subsaharienne est passée devant l'Éthiopie en termes de PIB par habitant. Donc voilà, ça commence à... Mais le jour où ces blocages se débloquent, c'est un peu la même chose pour le climat des affaires. Il y a beaucoup de travail sur le climat des affaires, mais il y a encore beaucoup de blocages. Je pense que le géant qui dort va être un tigre africain.
Vous pouvez suivre Bruno Lemarquis en long puisqu'il est l'invité de ce journal. En ce qui concerne la sécurité qui règne dans l'est de la RDC, notez que des violents combats ont opposé hier mardi des rebelles de l'FCM-23 à une coalition des groupes Wazalendo dans plusieurs villages du secteur de Katoï. Nous sommes au sud du territoire de Masisi, dans le Nord Kivu. Selon plusieurs sources locales, ces affrontements font suite à des attaques menées lundi soir par l'FCM-23 contre plusieurs positions de Wazalendo. De détails avec vous, Kaki Akiwa.
Les combats ont repris vers 4h du matin dans les villages des Mitimingi, à la localité de Kirambo, dans les groupements d'Oufamandou 2, indiquent nos sources. Ils se sont rapidement étendus aux villages voisins des Moussongé, Kaunda et Kachamba. À fin des matinées, des détonations d'armes lourdes et légères étaient déjà entendues aux abords du centre Katoï, chef-lieu du secteur portant les mêmes noms. D'après des notables locaux, une coalition des groupes Wazalendo, notamment les Maïmaï, Lamuka, des Noa, Mahachano, ainsi que des éléments du Pareco dirigés par Mutayomba et Kingingi auraient lancé une contre-offensive ces mardis en riposte aux attaques de la veille. Leur objectif serait de repousser les combattants de l'AFC M23 qu'ils accusent de menacer leur position dans la zone. Rappelons que toute la partie sud-ouest du territoire des Masisi connaît depuis quelques semaines une recrudescence des affrontements entre groupes armés. Selon nos sources, plusieurs villages du Osso Banyungu ont été vidés et leurs occupants les week-ends derniers par l'AFC M23 avant d'être ensuite réoccupés par les Wazalendo.
On rapporte toujours avec la FCM-23, la communauté Banyamulenge établie à Kinshasa doute du retrait de ses combattants de la plaine de la Ruzizi dans le sud Kivu. Elle a fait savoir hier mardi au cours d'un point de presse organisé ici dans la capitale. Cette communauté qui qualifie ce retrait de façade dénonce en même temps l'instrumentalisation de sa diaspora par le Rwanda en référence aux marches organisées récemment à Washington, Bruxelles et Nairobi. Écoutez, le président de la branche kinoise de cette communauté, Enoch Rubera Ngabo, appelle ses compatriotes à éviter toute forme de manipulation et à privilégier la cohésion interne. Il est ici au micro de John Chibopa.
Des troupes rwandaises et leurs alliés du M23, qui étaient annoncés dans la plaine de la Ruzizi il y a une semaine, n'étaient qu'un retrait de façade, puisque ces troupes devaient rentrer de Kabunambo, Sangé, jusqu'à Katokota, en 75 km d'Uvira. Mais ni à Katokota, ni à Kamanyola, on ne les voit pas aujourd'hui. Même aujourd'hui, on nous parle, mais plutôt, on a eu des témoignages des populations locales qui se sont dirigées vers l'ouest de l'Ubarika. D'autres, on les a signalés à Kaziba. Mais aux dernières nouvelles, ils se sont dirigés à Lumwinja, où se trouve le fameux mine d'or. Notre message d'aujourd'hui, c'est que Rwanda semble faire un pas de retrait, mais il entre en profondeur peut-être plusieurs kilomètres. Voilà l'objet de notre conférence de presse ici. Mais aussi, il y a des paragraphes qui dénoncent les manipulations des manifestations que vous avez vues à Washington, à Bruxelles et à Nairobi de notre diaspora manipulée. Nous avons un message envers eux de cesser d'être manipulés.
Voilà, parlons à présent de ce fait macabre survenu en Ituri. C'est la découverte de 9 corps sans vie lundi au village Tombilo et Malindi. Selon des sources locales, les victimes auraient été tuées depuis quelques jours par des présumés ADF en errance dans cette partie du territoire de Mambasa. Les activistes de défense des droits humains appellent la population à ne pas aller dans les profondeurs de la forêt, à ne pas fréquenter les lieux éloignés des habitations. Martial Kizabiamungu.
4 corps sans vie, dont celui d'une femme, ont été découverts hier matin dans une palmeraie à Tombilo par des agriculteurs. Selon des sources coutumières locales, les corps portaient des signes de torture et des blessures à la machette. Les mêmes sources ajoutent que les victimes ont été tuées par des présumés ADF dans leur atelier de fabrication d'huile de palme. Quelques heures après, toujours lundi, 5 autres corps sans vie ont par la suite été découverts au carré minier des Malindi. Des sources de la société civile locale indique que les victimes travaillaient dans une mine artisanale lorsque des hommes armés identifiés aux présumés ADF les ont surpris. Plus de dizaines de maisons d'habitation ont été également incendiées par les rebelles. Des activistes locaux des droits humains appellent le paysan à ne pas fréquenter les zones profondes afin de se mettre à l'abri de ces rebelles. L'un d'eux, Rams Malikidogo.
Nous rappelons toujours la population d'être toujours vigilante parce que l'ennemi reste encore dans la zone. Nous rappelons encore les autorités militaires, ils ont juré de protéger la population et leurs biens. L'air est vraiment grave de pouvoir poursuivre l'ennemi.
Nous n'avons pas encore eu la réaction de l'administrateur du territoire de Mambasa à ce sujet. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
On parle très peu du sujet que vous allez entendre à présent. Il s'agit des travailleurs domestiques. Leurs droits sont bel et bien réglementés en RDC, affirme le syndicat Convention de lutte pour les employés Cléon Sigle. Contrairement aux propos du député Prince Kangila Kawele, qui a déposé sa proposition de loi visant à réglementer le travail des nounous, sentinelles, chauffeurs personnels et autres, ce syndicat estime que cette révision est sans objet car c'est plutôt l'application de la loi qui pose problème. Le président de cette organisation, José Kadima, explique au micro de Freddy Loufoulabo.
Les domestiques, les nounous et les chauffeurs ne sont pas oubliés par la loi. Le problème n'est pas l'absence de texte, mais le non-respect des dispositions existantes. Donc, les défaillances constatées en matière de rémunération, de couverture médicale et d'avantages sociaux relèvent des violations du droit existant et non des manques de législation. Par exemple, le SMIG s'applique à l'ensemble des employeurs et c'est à l'inspection du travail de jouer pleinement son rôle de contrôle. La CLE met en garde contre une logique de législation profession ou métier par métier qui risquerait de fragmenter le droit du travail et transformer la réforme en instrument politique. Ce qu'il faut faire, c'est que maintenant le Parlement doit se concentrer sur les véritables lacunes du Code du travail en République démocratique du Congo, notamment sur les questions relatives à l'encadrement du télétravail.
Et puis cet incident malheureux à Beni, au Nord Kivu, un mur de face du stade du 15 octobre s'écroule. Bilan, 2 élèves du complexe scolaire La Victoire situé au quartier résidentiel de la commune de Bungulu qui passaient sont tués. Ce mur était déjà usé par les eaux de pluie. Face à cette situation, le service de protection civile locale appelle la population à la vigilance et à éviter toutes les zones à risque, particulièrement en cette saison de pluie. Jean-Paul Capitoulin, responsable, donne plus de détails au micro de Marc Marofimbo.
Actuellement, nous observons une certaine augmentation de la pluviométrie dans la zone de Beni. Il y a lieu de comprendre qu'il y a eu affaiblissement du mur avec de l'eau et au finish, malheureusement, le mur qui a lâché pendant que 2 victimes étaient de passage. À ce stade, c'est une consternation, mais nous appelons la population à la vigilance. Le ciel est encore couvert et il est probable que nous puissions interdire les gens de se mettre aux côtés des endroits en risque, c'est-à-dire les endroits qui présentent déjà des signes probables que cela peut constituer un danger. Être aux côtés des murs affaiblis, des murs longtemps construits, sur des pentes, mais aussi ceux qui sont riverains des rivières. Nous n'allons pas oublier de le rappeler. Nous demandons qu'une mesure sécuritaire soit mise autour de la clôture du stade du 15 octobre. Parce que c'est pas la première fois que cet endroit écroule. Je crois que le même endroit vient d'écrouler pour la troisième fois là. Et on ne sait pas pour quelles raisons. Et donc, nous appelons tout le monde à prendre conscience que pendant ce moment de pluie, il y aura toujours des événements inhabituels et que nous devons nous tous tirer attention sur tout ce qui peut constituer un danger.
Actualité internationale.
En Ouganda, le gouvernement a confirmé hier que plus d'une centaine de personnes ont été placées en quarantaine dans un lieu tenu secret où elles sont surveillées pour détecter des signes et symptômes du virus Ebola. Selon africanews.fr, les autorités ougandaises tentent de rassurer la population alors que le pays se mobilise pour enrayer l'épidémie d'Ebola apparue en RDC. Les personnes placées en quarantaine sont prises en charge par un personnel médical très expérimenté. C'est ce qu'a déclaré le directeur exécutif de l'Ugandan Media Center, Alan Kasuja.
L'invité.
Comme annoncé, Bruno Le Marquis, qui a été le chef adjoint de la MONUSCO et coordonnateur résident, a fini cette mission qu'il a exercée en RDC depuis 2022. Il devrait prendre ses mêmes fonctions dans un autre pays dans les jours qui viennent. Comme bilan de son mandat en RDC, il dit avoir donné sa contribution pour aider à certaines réformes pour le développement du pays. Il souhaite désormais une bonne évolution à la République démocratique du Congo. Bruno Le Marquis, notre invité, se confie à Dona Madimba.
Bruno Le Marquis, bonjour.
Bonjour.
Votre mission s'achève donc en République démocratique du Congo et dans quelques moments vous allez aller pour d'autres sollicitations. Quel bilan pourriez-vous faire de votre travail, de votre parcours en RDC?
Bon, j'espère, merci pour la question, j'espère avoir apporté ma toute petite pierre à l'édifice du chemin vers le développement durable de ce pays. J'espère avoir apporté ma petite pierre, parce que j'avais trois chapeaux, trois fonctions, au sein de la MONUSCO pour appuyer un certain nombre de réformes, de processus, réforme du secteur de la sécurité, la question de la réforme de la justice, la question épineuse du secteur pénitentiaire et des prisons, et puis la question de la transition de la MONUSCO, et puis comme coordonnateur humanitaire, faire de mon mieux pour coordonner l'action humanitaire aux côtés des autorités nationales pour répondre à toutes ces crises, ces grandes crises de déplacement, ces crises de protection, notamment dans l'est de la RDC. Le bilan est parfois un peu difficile à tirer, notamment du côté du développement, puisque ce sont des processus lents, à très long terme. Donc il faut, je pense, avoir insufflé certaines dynamiques sur certaines problématiques, notamment pour tout ce qui est la problématique du nexus entre l'humanitaire, le développement et la paix, pour tout ce qui concerne les solutions durables par rapport aux déplacés internes, et puis pour inculquer une approche au sein de la famille des Nations Unies qui vise à s'intéresser aux causes, oui, aux racines des problèmes, aux racines des déficits de développement qu'il y a dans le pays, etc., plutôt que toujours répondre à la crise du jour, à la dernière crise du jour, ou à se disperser à travers la mise en œuvre de projets dans le pays, à travers le pays. C'est un pays où c'est assez difficile de mesurer l'impact de toute cette assistance qui a été donnée au pays. Donc, moi, j'ai passé du temps à essayer de trouver le chemin vers le meilleur impact, et je crois que c'est pour avoir le plus grand impact, il faut influencer les bonnes décisions.
Alors, une des choses les plus urgentes en RDC, surtout dans sa partie Est, c'est de pouvoir résoudre les besoins humanitaires qui sont nombreux. Il faut faire quoi, comment, pour que ces personnes puissent être soulagées, si pas définitivement, mais de manière suffisamment forte.
Alors, par rapport à ça, on a cette discussion avec les autorités nationales pour que les humanitaires se concentrent sur les crises les plus urgentes, et c'est là où on focalise les besoins, tandis que, pour le reste, l'État monte en gamme, l'État monte en service, en service à ses populations, et puis on travaille vraiment d'arrache-pied sur les solutions.
L'autre défi pour la RDC, c'est notamment le retour, l'établissement de la paix ou la consolidation de la paix dans l'ensemble du territoire. En République démocratique du Congo, chacun a ses solutions ou sa solution à ce problème. Vous qui avez quand même géré l'humanitaire pendant presque 5 ans RDC, quelle serait votre solution à ce problème d'installation de la paix définitive?
Bon, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas une paix, il y a plusieurs paix, parce qu'il y a, bon, je l'appellerai la paix avec un petit p et la paix avec un grand p. Parce qu'il y a toute une typologie de conflits en RDC où il faut appuyer les acteurs locaux pour la paix, il faut consolider les plateformes locales de médiation, etc., etc. Et puis pour les grands processus, les plus grands processus politiques, il faut vraiment travailler de concert entre tous les partenaires concernés. Donc ça, on le voit avec les processus de Washington, de Doha et l'implication de l'Union africaine.
Vous quittez la RDC pour d'autres sollicitations, Bruno Le Marquis. En quelques mots, ça pourrait être quoi votre testament à léguer à ce pays ou à quelques acteurs, si vous en aviez un?
Bon, un peu ce que je viens de dire, essayer de toujours trouver le petit chemin qui nous amènera vers le début de la résolution du paradoxe congolais. Partout où on va, il y a beaucoup de choses internes. Le problème entre ce processus en cours inachevé de la décentralisation. Donc, il y a beaucoup de petites choses internes qui peuvent être sur lesquelles il faut travailler pour petit à petit commencer à résoudre le paradoxe congolais, parce que je suis persuadé que le Congo est un géant qui dort, qui est en train de se réveiller. On le voit, il y a eu cette annonce il y a quelques jours que la RDC pour l'Afrique subsaharienne est passée devant l'Éthiopie en termes de PIB par habitant, je pense que c'était ça l'indicateur, ou de croissance, je ne sais plus. Donc voilà, ça commence à... Mais le jour où ces blocages se débloquent, c'est un peu la même chose pour le climat des affaires. Il y a beaucoup de travail sur le climat des affaires, mais il y a encore beaucoup de blocages. Je pense que le géant qui dort va être un tigre africain.
Bruno Le Marquis, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal préparé par Lévin Bouinga, mise en onde par Alain Goy. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée.